VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue sur VOA Afrique. Eric Manirakiza et Lionel Runaniragaima avec vous. Nous sommes lundi 4 avril 2016. L'actualité dominante dans le monde aujourd'hui.
Arrestation du leader du groupe terroriste Ansarou, une branche dissidente de Boko Haram, alliée à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique.
C'est en effet une lourde perte pour Ansarou. Khalid Al-Bardawi, 47 ans, figurait depuis 2012 parmi 3 Nigérians sur la liste du département d'État énumérant les terroristes internationaux les plus recherchés.
Chérubin Dorsil nous donnera les détails.
Au Tchad, les habitants de Bagassora multiplient la vigilance contre Boko Haram.
Bagassoula n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué par Boko Haram.
L'opposition de la société civile congolaise salue la propagation de la force onusienne, la MONUSCO.
Mais nous voudrions que la MONUSCO fasse mieux qu'il n'a fait depuis 15 ans.
Maître Omar Kavota de Beni.
À découvrir dans cette édition, les paradis fiscaux, un plus grand coup jamais révélé depuis 1977. Vladimir Poutine, Lionel Messi sont cités et bien d'autres. Il y aura aussi l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Revers pour le groupe terroriste Ansarou, une branche dissidente de Boko Haram qui s'est alliée à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'armée nigériane a annoncé hier l'arrestation de son leader Khalid Al-Barnawi. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
C'est en effet une lourde perte pour Ansarou. Khalid Al-Barnawi, 47 ans, figurait depuis 2012 parmi 3 Nigérians sur la liste du département d'État énumérant les terroristes internationaux les plus recherchés. Les 2 autres sont le fondateur d'Ansarou, Aboubakar Adam Kambar, mort dans un raid à Kano en mars 2012, et le chef de Boko Haram, lui-même, Aboubakar Shekau, dont la situation est inconnue, des vidéos annonçant et démentant récemment qu'il serait prêt de mourir. Selon Rabé Aboubakar, porte-parole de l'armée nigériane, l'arrestation de Khalid Al-Barnawi, intervenue vendredi dans le centre du Nigeria, représente une avancée dans la lutte contre le terrorisme. De son vrai nom, Ousmane Oumar Aboubakar, Al-Barnawi est originaire de la ville de Biou, dans l'état septentrional de Borno. Il a reçu des entraînements en Afghanistan et en Algérie et a pris la tête d'Ansarou après la mort de son fondateur. Le gouvernement nigérian s'est félicité de la nouvelle de sa capture.
En RDC, le renouvellement du mandat de la force onusienne, la MONUSCO, a été diversément apprécié. L'opposition et la société civile y sont favorables. Charlie Kasereka est notre correspondant à Goma, dans le Nord Kivu.
Redans Mikindo est le numéro 1 au Nord Kivu du premier parti de l'opposition UDPS.
Nous saluons la reconduction du mandat de la MONUSCO parce que vous savez, nous sommes dans une année pratiquement électorale.
Vu la situation sécuritaire et politique volatile dans tous les pays actuellement, le gouvernement congolais n'avait pas raison de demander la réduction des effectifs de cette mission onusienne, pense Jared Mouliavio, député élu de Beni.
Le président de l'Assemblée provinciale vient de donner un tableau sombre de la situation dans la province Nord Kivu. Là où la police fuit, je ne pense pas que c'est là où vous allez demander à d'autres agences qui sont chargées de sécuriser les civils de déguerpir.
Pour les partis au pouvoir, le PPRD craint qu'il y ait des divergences quant à l'applicabilité de ces nouveaux mandats de la MONUSCO, Ezekias Panoukou.
Je pense qu'il était nécessaire que la MONUSCO accepte de réduire. Malheureusement, le Conseil de sécurité a décidé que non, la MONUSCO reste encore pour un an.
La société civile, quant à elle, pense qu'il est maintenant temps que cette brigade des Nations Unies passe aux actions concrètes pour éliminer et neutraliser tous les groupes armées de l'Est du pays. Maître Omar Kavota.
Mais nous voudrions que la MONUSCO fasse mieux qu'il n'a fait depuis 15 ans. Mais il s'observe aussi qu'il y a nécessité d'encadrer le processus électoral ou la campagne.
Charlie Kasereka, depuis Goma pour VOA Afrique.
Quelques 400 000 personnes au Soudan auront besoin d'aide alimentaire en raison de la raréfaction des pluies dans ce pays due au phénomène climatique El Niño, ont indiqué les Nations Unies à l'AFP dimanche. Le phénomène climatique El Niño est un grave épisode météorologique affectant le régime de pluie et qui se traduit aussi bien par les sécheresses que par des inondations. Il survient tous les deux à 7 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Ailleurs, dans le monde, des révélations qui rappellent celles de Wikileaks. Elles concernent les paradis fiscaux largement utilisés par des leaders mondiaux. L'enquête est signée le consortium international des journalistes d'investigation réalisé par plus de 100 journaux sur quelque 11,5 millions de documents. Un plus grand coup qui couvre une période de près de 40 ans allant de 1977 à 2005. Il s'agit de la plus grande fuite de l'histoire du journalisme, n'est-ce pas Jean-Roger Bion ?
Homme politique, footballeur, au moins 140 personnalités de premier plan sont épinglées. Parmi elles, des collaborateurs de premier plan du président russe Vladimir Poutine. Selon cette enquête, des associés de Poutine ont falsifié des paiements, antidaté des documents et obtenu de l'influence occulte auprès des médias et de l'industrie automobile russe. L'argent détourné atteindrait 2 milliards de dollars avec l'aide de banques et de sociétés écrans. D'autres figures politiques visées par l'enquête, la famille du président chinois Xi Jinping, le président ukrainien Petro Poroshenko, le premier ministre irlandais soupçonné d'avoir dissimulé des millions de dollars. Ce n'est pas tout. Le monde du football, déjà ébranlé ces derniers mois par plusieurs scandales touchant les dirigeants de la FIFA, n'est pas épargné. Les icônes Michel Platini et Lionel Messi figurent sur la liste. Ce plus grand coup jamais porté aux paradis fiscaux a documenté plus de 214 000 entités offshore impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde.
Le porte-parole du Front al-Nosra, branche d'Al-Qaïda en Syrie, son fils et 20 autres djihadistes, dont 7 autres responsables, ont été tués hier dimanche dans des frappes aériennes sur le nord-est du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il pourrait s'agir de frappes russes ou de l'armée de l'air syrienne. Ces frappes interviennent 2 jours après la prise par al-Nosra de la localité d'El Aïs dans la province d'Alep, limitrophe de celle d'Idleb et dans laquelle au moins 12 membres du Hezbollah, chiites libanais alliés du régime, ont été tués.
Le bras de fer entre la Maison-Blanche et le Sénat américain sur la nomination du 9e juge de la Cour suprême devrait dominer l'actualité au Congrès cette semaine, alors que les sénateurs regagnent la capitale après 2 semaines de congé. C'est un conflit à la fois idéologique et politique en cette année électorale. Lionel Gahima.
Le Congrès était en vacances la semaine dernière, mais 3 sénateurs sont venus à Washington pour s'entretenir avec le juge Merrick Garland, nommé par le président Barack Obama pour remplacer Antonin Scalia, l'un des membres conservateurs de la Cour, décédé. Pour la première fois, un républicain a accepté de rencontrer le candidat. Le sénateur Mark Kirk a dit que le juge Garland ayant été nommé par le président, nous devrions nous prononcer sur son cas. Il nous faut considérer le processus constitutionnel de manière rationnelle, adulte, avec un esprit ouvert. Plus d'une douzaine d'autres républicains ont affirmé leur volonté de rencontrer le juge Garland, mais seulement 2 ont exhorté le Sénat de se prononcer sur sa nomination. Un 3e, Jerry Moran, a dans un premier temps appelé la tenue d'audience, mais il a changé d'avis 2 jours plus tard. Entre-temps, les démocrates restent unis en faveur du juge Merrick Garland. Il est quelqu'un de très qualifié et je pense que le Sénat a pour obligation non seulement de tenir des audiences, mais aussi de voter sur sa nomination à la Cour suprême, a dit la sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand. Cependant, les républicains ont la majorité au Sénat et de ce fait contrôlent l'agenda. Le leader de la majorité, Mitch McConnell. Laissons le peuple américain décider. Le Sénat se penchera sur la question de manière appropriée quand il aura à considérer le choix du prochain président, quel qu'il soit. Actuellement, la Cour est divisée entre autres progressistes et 4 conservateurs pour le candidat républicain Ted Cruz. Si Hillary Clinton est élue président des États-Unis, la Cour suprême est perdue pour une génération et c'est en fait de la Déclaration des droits du citoyen, dit le sénateur du Texas. La plupart des sondages montrent un appui de la majorité des Américains pour un vote au Sénat sur la nomination du juge Merrick Garland avant les élections.
La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a réaffirmé qu'elle ne démissionnerait pas de ses fonctions à la veille d'une semaine décisive pour son avenir à la tête du plus grand pays d'Amérique latine. L'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Nathalie Barge.
29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à Abidjan. Ouverture ce lundi de la réunion des experts qui se déroulera sur 3 jours avant la conférence des ministres jeudi et vendredi. La conférence organise notamment des consultations sur la faisabilité et la mise en œuvre des plans de développement alimentaire et agricole. La compagnie canadienne Semafo a obtenu un crédit de 120 millions de dollars de la banque australienne Macquarie Bank Limited pour la construction au Burkina Faso cette année de la mine de Natougou qui devrait produire 226 000 onces d'or par an. Selon les paramètres économiques du projet Natougou, le taux de rendement interne après impôt serait de 48%. Selon une étude de l'Institut des comptables agréés pour l'Angleterre et le Pays de Galles, la croissance économique en Afrique devrait mieux se comporter dans les 5 prochaines années. Le Nigeria devrait contribuer à cette progression à hauteur de 4,8% de croissance stable et réelle jusqu'en 2020. L'économie du Kenya devrait augmenter d'environ 6% au cours de la période 2017-2020.
C'était la Muniteco. Merci Nathalie. C'est parti avec votre page sportive ce matin avec Élisée. Avant de parler football, la boxe tout d'abord pour dire que Zine Edine a conservé son titre de champion du monde de WBF des lourds légers.
Le boxeur algérien a obtenu sa victoire après abandon au 6e round de l'Allemand Lasse Bouchoz. Zine Ben Makhlouf, dominateur, n'a laissé aucune chance au boxeur allemand qui a décidé de jeter l'éponge après la fin du 6e round. L'Algérien a désormais un palmarès de 22 victoires, 4 défaites et 1 nul.
Football avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Élisée.
Oui, premier tour aller et la Tunisie qui se rassure en attendant le match retour. Les Aiglons ont étrié le Niger 3-0. Pour le reste, le Mozambique prend le dessus sur l'île Maurice 1-0. L'Algérie s'impose à domicile face à la Mauritanie 2-1. À noter la bonne opération de la Guinée. Le Sili Junior est allé battre le Libéria 2-0. Et puis le nul, un but partout entre le Rwanda et l'Ouganda.
À présent, Élisée, nous allons faire le tour de quelques championnats africains.
Et nous allons démarrer par la Guinée avec le Classico qui a tourné à l'avantage de Oroya, vainqueur de l'AS Kaloun 2-0 grâce au doublé d'Ibrahim Nsouri Sankon. Un match comptant pour la 5e journée du championnat de première division. Une victoire qui propulse les rouges et blancs à la 2e place. En Tunisie, c'est l'Espérance qui s'offre le Classique de Tunis face au club africain 2-1 et reste 2e à 1 point du leader. L'Étoile du Sahel, vainqueur la veille de Kasserine 1-0. En Côte d'Ivoire, le match au sommet de la 11e journée du championnat a tourné à l'avantage de l'AS Standard. Le champion sortant a eu raison de l'Africa Sport 1-0 et garde la première place devant le stade d'Abidjan. La SEC Mimosa a battu le promu Moussou 2-0. Et puis au Cameroun, le leader du championnat New Star a été tenu en échec à domicile par Cosmos 0-0. Notons la victoire de l'Union de Douala 2-0 face à Babutos de Bunda.
Le foot, c'est aussi la fin de l'aventure de Christian Gourcuff à la tête de la sélection algérienne.
Effectivement, Eric, un accord à l'amiable a été trouvé entre la fédération et le français pour la résiliation de son contrat. Mohamed Rouaroua, le président de la fédération algérienne de football, a donc libéré Christian Gourcuff sans demander d'indemnisation. La nomination du prochain sélectionneur pourra probablement avoir lieu avant le match contre les Seychelles. Pour le moment, c'est le duo Neguiz-Mansouri qui devrait assurer l'intérim.
Et au Congo, Lamine Ndiaye n'est plus l'entraîneur de l'AS Léopard de Dolisy.
Il avait tenu un peu plus d'un an à la tête du club congolais. Le Sénégalais a été limogé. Ndiaye paye l'élimination en 16e de finale de la Ligue des Champions face au Sud-Africain des Mamelodi Sundowns. Pour le moment, aucun nom n'a été signalé pour le remplacer. Et puis pour finir du basketball avec vous, Eric, les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de l'épreuve.
C'était donc notre ami Élisée qui nous présentait les sports. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Rebonjour à tous. Nous passons à la deuxième partie de notre émission, lutte contre Boko Haram. Dans la région du lac Tchad,
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de VOA Afrique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui également sur voaafrique.com. La deuxième partie de notre émission lutte contre Boko Haram dans la région du lac Tchad. Les habitants ont mis en place des comités de vigilance malgré l'état d'urgence décrété depuis plusieurs mois. Notre envoyé spécial Bagasikoura s'est rendu dans la ville de Bagassola. Son constat.
Nous sommes ici au marché hebdomadaire de Bagassola. Ce samedi, vendeurs, acheteurs et habitants de la région ont convergé en masse ici. Pourtant, il y a seulement 5 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans 3 explosions kamikazes simultanées.
Il était 15h30 quand le premier détonnement s'est fait entendre.
Lui, c'est Dimouya Souapébé, le préfet du département de Kaya, chef-lieu Bagassola.
Bagassola n'a jamais eu à l'idée un jour qu'il allait être attaqué.
Au centre du marché, des restes de hangars calcinés, signe de la puissance des bombes artisanales. À ce jour, c'est l'attaque la plus meurtrière de Boko Haram sur le sol tchadien. On écoute le préfet de Bagassola, Dimouya Souapébé.
Nous avions eu sur le coup 43 morts, mais y compris les kamikazes. 43 morts, 58 blessés.
Situé à quelques 200 km des frontières du Niger et du Nigeria, épicentre du groupe Boko Haram, Bagassola a depuis pris des mesures drastiques pour se protéger. Des groupes d'autodéfense ont été constitués. Pour avoir accès au marché, il faut désormais montrer patte blanche aux membres du comité de vigilance. Dans cette bourgade sous un soleil de plomb, ils procèdent à des fouilles corporelles à l'aide de détecteurs de métaux.
On fouille tout le monde. Si ton frère même, s'il est dehors, tu vas le fouiller.
Hassan Ahmad Mahamat est le président du comité de vigilance.
On commence à 6h30 à 18h. On a fait 6 mois ou 7 mois, on est ici. Matin, soir, on est là. Mais on a rien trouvé, mais on a soutenu, on a fait défendre notre pays, seulement notre village.
Selon le préfet Dimouya Souapébé, ce même dispositif existe dans tous les villages de sa circonscription.
Ce comité de village, vous partez aujourd'hui dans tous les villages, quelle que soit la taille de ce village. Vous partez dans toutes les villes du département de Kaya. Vous y trouverez des hommes armés, pas en fusil. Nos populations n'ont pas de fusil. Mais ils s'arment en armes blanches. Ils sont devenus très vigilants, comme indique leur nom. Et ce sont ceux-là, aux côtés de nos forces de défense, ont fait, à l'heure où je vous parle, que nous espérions quand même que la sécurité est en train de revenir.
La région du lac est hautement militarisée. Sous la menace de Boko Haram, l'armée continue son redéploiement dans cette région placée sous état d'urgence depuis novembre 2015. À Bagassola, dans l'ouest du Tchad, Bagasikoura pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz a été réélu président de la République en 2014 pour un dernier mandat de 5 ans. Malgré cette limitation constitutionnelle, certains ministres de son gouvernement ont clairement laissé entrevoir la possibilité d'une révision constitutionnelle pour lui permettre de briguer un 3e mandat. L'opposition a réagi et parle d'une tentative de tripatouillage de la loi fondamentale pour faire obstacle à l'alternance. Les explications de Brahim Dia Nouakchott, notre correspondant sur place.
Au terme de la Constitution, le président de la République est rééligible une seule fois. Toujours au terme de cette loi, aucune procédure de révision ne peut être engagée si, entre autres, elle met en cause le principe de la limitation des mandats présidentiels à 2. Malgré ces dispositions, le ministre de la Justice, Brahim Ould Dada, face aux députés à l'Assemblée nationale, a laissé entrevoir la possibilité de mandats supplémentaires pour le chef de l'État.
Les citoyens le savent, il y a un gouvernement qui a tant fait et il y a un président de la République qui a des projets, une vision pour le pays et pour l'État. Le peuple en général, la majorité, l'opposition doivent demander à ce président d'augmenter ses mandats.
Quelques jours après, Mohamed Lemine Oulcheikh, ministre porte-parole officiel du gouvernement, ajoute, je le cite, « La volonté du peuple est au-dessus de la Constitution. C'est le peuple qui a voté cette loi, il peut la réviser. » Fin de citation. Une partie de l'opposition, réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, a mis en garde contre les risques de ce qu'elle appelle une tentative de passage en force au mépris de la loi. Mahfoud Oulbetah, président du pôle politique de ce forum.
Nous rejetons purement et simplement cette entreprise. Nous la condamnons avec la plus grande vigueur. Nous faisons assumer personnellement aux ministres qui ont exprimé cette idée une responsabilité historique.
Le FNDI, qui était dans une logique de dialogue avec le pouvoir, a rompu tout contact avec lui, Mahfoud Oulbetah.
Nous fermons la porte à tout contact avec le pouvoir, tant qu'il n'a pas déjugé de façon claire ses ministres.
Après sa réélection, Mohamedou Abdelaziz, en prêtant serment, a juré par Allah de ne point soutenir une entreprise visant la révision de la Constitution sur la limitation des mandats à deux. Dans une république islamique, on imagine la portée de ce serment. Mohamedou Abdelaziz figurera-t-il sur la longue liste des présidents africains qui ont changé les règles du jeu avant le match pour se maintenir au pouvoir? On le saura en 2019, date de la prochaine élection présidentielle en Mauritanie. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Tension entre le Sénégal et la Gambie, une tension qui dure déjà plusieurs jours, la pomme de discorde. Une surtaxe sur les gros porteurs en partance pour la Gambie. Certaines voies autorisées montent au créneau. C'est le moment d'être ferme avec le président Yaya Djamé à Dakar. Les précisions de Sorna Natambaye.
Une fois encore, le Sénégal et la Gambie démontrent qu'ils se sont entendus pour ne pas s'entendre. À chaque fois, la tension prend source à la frontière. Il y a plusieurs semaines, les autorités gambiennes ont décidé d'augmenter les tarifs des gros porteurs pour la traversée. Les véhicules devront obligatoirement passer par la Gambie pour regagner la partie sud du Sénégal, la Casamance. Les premiers à se plaindre, les transporteurs. Mais après 2 mois de blocus, ils semblent s'être résignés. Gora Khoum, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal.
Nous sommes chez nous, donc le problème qu'on avait est au niveau de la Gambie. Maintenant, Dieu a fait que nous sommes chez nous, nous faisons Dakar vers le sud vers les autres régions du Sénégal sans pouvoir avoir des problèmes.
C'est également l'avis de Ndjougou Ndiaye, ancien ambassadeur du Sénégal à Banjul. Il crache sévérité.
Il faut que l'on puisse partir de Dakar, arriver à Ziguinchor tout en restant dans le Sénégal. On n'a pas besoin de traverser la Gambie pour aller en Casamance. C'est cette histoire de traversée de la Gambie qui envenime nos relations. Et fort de ça, le président Djamé se permet le comportement qu'il a vis-à-vis du Sénégal.
Le Sénégal a riposté et a presque asphyxié la Gambie. Aucun gros porteur ne sort ni n'entre dans le pays. Alors, difficultés d'approvisionnement en carburant, nourriture et divers besoins de base qui provenaient essentiellement du Sénégal. Ces citoyens regrettent qu'on en arrive là.
Le Sénégal et la Gambie, en quelque sorte, c'est un même pays. Parce que c'est les mêmes populations qui sont au Sénégal qu'on retrouve en Gambie. On devait pouvoir trouver un consensus entre les deux pays. Ça ne devait même pas durer autant de temps.
Un projet de construction de pont reliant les deux pays a longtemps été soulevé, mais cela traîne toujours. Selon Gora Khoum, il y a un manque de volonté de la part des autorités gambiennes.
Ce pas doit être oublié, parce que le président Yaya Djamé ne veut pas régler le problème du pont. C'est le pont qui devait régler ce problème de la traversée, mais il ne veut pas, comme il ne veut pas. Donc c'est une occasion pour nous, pour lui dire que nous ne voulons pas, tant qu'il n'a pas fait le pont, nous on préfère rester chez nous.
Une rencontre aurait dû se tenir fin mars entre les autorités des deux pays, mais le Sénégal a boudé. L'une des raisons, la Gambie a déposé une plainte auprès de la CEDEAO. La ministre gambienne des Affaires étrangères, elle, espère qu'une autre date sera retenue après la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal. Sorna Natambaye, Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
Au Mali, le potable devient une denrée rare. Les populations du sud ou du nord sont toutes confrontées au problème d'eau potable. Les plus exposées sont surtout les femmes qui doivent parcourir des centaines de kilomètres avec un seau d'eau. Dans certaines localités du pays, comme Kaye, par exemple, une ville riveraine du fleuve Sénégal, ces femmes ont battu les pavés pour se faire entendre, n'est-ce pas, Kassim Traoré?
La période des chaleurs est source de manque d'eau potable au Mali. Avoir de l'eau potable devient alors un parcours de combattant. Dounantier Daou, coordinateur de la campagne nationale pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.
En cette période de canicule au niveau du Mali, nous le savons déjà, les infrastructures d'eau ne suffisent pas aujourd'hui pour avoir accès à l'eau potable. Souvent, il faut veiller à la quête de la goutte d'eau. Et ça, c'est ceux qui sont au niveau de la capitale ici. Ceux qui sont au niveau des zones d'insécurité, nous parlerons d'autres choses.
Au nord du Mali, les femmes parcourent de longues distances pour avoir de l'eau. De nos jours, les forages et les puits à grand diamètre se font rares dans la localité de Bourem, région de Gao. Aïssata Sissé, ménagère.
À Bourem, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'eau. Les femmes marchent des kilomètres pour chercher l'eau. On nous donne aquatable pour utiliser, pour filtrer l'eau. Mais ça ne va pas du tout. Parce que les femmes sont très fatiguées là-bas. Surtout à ces moments. Maintenant, l'eau est cesse. Les femmes part au fleuve des kilomètres pour chercher de l'eau. Il n'y a pas d'eau potable à Bourem, alors que l'eau, c'est la maîtresse de la vie.
Comme dans la région de Gao, c'est le même constat dans celle de Tombouctou, surtout à Ras El Hamma, où certains réfugiés qui sont revenus au Berkay sont obligés de retourner dans les camps des réfugiés à cause du manque d'eau. Charney Ag Infan, réfugié.
Se procurer de l'eau potable au nord du Mali est devenu un luxe, précisément chez nous à Ras El Hamma. Il y a un sérieux manque d'eau potable, qui dit en général par manque de forage. La population utilise l'eau des puits qui a des vingtaines de kilomètres, c'est-à-dire loin des portées des femmes. Elles sont obligées de marcher chaque jour ces trajets pour leurs besoins en eau. Nos serres vivent dans des conditions précaires, alors que l'eau, c'est la vie. Sans eau, pas de vie.
À Kay, première région administrative du Mali, c'est le même scénario. Les femmes de l'Afiabougou Sud dénoncent une marginalisation quant à la distribution de l'eau potable par rapport aux autres quartiers de Kay. Pour se faire entendre, elles ont marché sur le gouverneur de la région, Berthe Oumumba, porte-parole des femmes.
Avant le profond regret de venir une fois de plus porter à la connaissance des autorités nos angoisses, nos calvaires, nos souffrances, au point que nous ne savons plus à quel sein se vouer. Car en 2015, à la même période, nous étions à la même place pour dénoncer les mêmes mots aux autorités de l'époque, à savoir la pénurie d'eau potable, malgré que la ville soit riveraine du fleuve Sénégal. Le manque d'extension du réseau électrique, bien que les centrales électriques de Felou et de Manantali soient situées dans la région.
En cette période de canicule, dans les rues de Bamako, pour avoir de l'eau potable, c'est un parcours de combattants. Ce sont des longues queues partout et à n'importe quelle heure de la journée. À cela, il faut ajouter le délestage d'électricité qui aggrave la situation des populations en cette période de grande chaleur. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Allo Sarola, Lolo Kanela Kuzama Mwalin Zela Zende, Mkutu Lava Shemi, Zaba Bulela.
Réalisation lyonnaise Runanira Gaïma. La mise en onde était assurée par Charles Hall. Eric Manilakiza à la présentation. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, plus d'un million de fonds déjà. L'actualité en Afrique et ailleurs sur notre site internet voaafrique.com. Excellente journée à tous et salutations à Christian Giralta qui nous écoute au Tchad dans la capitale N'Djamena, Anita Tiama, Dombou Djimaï à NRDC. Au revoir.